EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous et quelle joie de recevoir dans les studios Pasteur Fofi Indelo. Bonjour et
bonjour.
Bienvenue Pasteur Fofi.
Bonjour mon pasteur.
Gloire à Dieu. Je suis content de vous recevoir encore aujourd'hui à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons d'un héros dans la foi et c'est vous.
Merci.
Un héros dans la foi, certainement. Quand j'étais dans votre église à Montréal récemment, vous m'avez raconté, votre dernier voyage au Pakistan et en Arménie. Et puis, vous avez vu des miracles là-bas, des gens venir au Seigneur, des foules d'environ 20 000 personnes. Et c'est vraiment glorieux ce que Dieu est en train de faire à travers votre vie et votre ministère. Et on a vu aussi hier dans notre émission comment vous deviez prendre des pas de foi et ne pas être limité ou comme... empêché par la crainte, mais vous foncez, même si juste avant votre passage, il y a eu des missionnaires qui ont été décapités, vous êtes allé quand même parce que vous savez que Dieu vous a appelé à y aller. On a mentionné aussi dans notre émission précédente que Jésus vous a apparu il y a une trentaine d'années et vous avez dit qu'il vous appelait à aller justement dans des pays dangereux comme ça. Donc, gloire à Dieu pour votre ministère. Et juste avant de poursuivre dans notre étude en parlant de cet homme de foi que vous êtes, on étudie la foi en général, mais on illustre la foi par votre vie parce que vous êtes un héros. Qu'on retrouve aujourd'hui, on retrouve dans la parole dans Hébreux 11 des héros hein, certainement, mais vous êtes un héros contemporain et on dit gloire à Dieu, vous êtes vivant, vous pouvez nous raconter comment ça se vit ça, la vie d'un héros. Et aujourd'hui, on va parler de votre motivation parce que vous avez répondu à l'appel, mais vous êtes motivé certainement. Et juste avant, racontez-nous un peu votre vie ici au Canada. Vous êtes dans la terre promise, la terre de la bénédiction au Canada et vous êtes pasteur.
Oui, je suis au Canada, ça fait 25 ans. Que je suis au Québec. Je remercie Dieu parce que vraiment, c'est le Seigneur qui conduit nos pas.
Oui.
Je ne voulais pas vraiment venir au Québec.
Vous aviez peur du climat, là.
Le climat. Mais quand même, les circonstances ont fait que je sois là. Et c'était dans le plan de Dieu. Je bénis le Seigneur. Vous savez, quand je suis arrivé, il y avait le pasteur Mario Mascotte. Mario Mascotte avait prophétisé. Un jour comme ça, dans une de ces réunions, c'était pour moi la première fois, il y avait une femme qui venait de la France, qui est en train de prêcher. Elle aussi, elle a dit des choses. Elle m'a parlé, ils m'ont parlé à propos de mon ministère ici au Canada, que Dieu m'appelait dans un ministère apostolique. Aujourd'hui, quand je le vois, après 25 ans, je vois les fruits de ce que Dieu a dit au travers d'eux. Vous savez, il y a des moments, il ne faut jamais négliger les paroles de connaissance qu'on nous donne. Il faut les noter parce que à la longue, vous finirez par voir si ça s'est accompli ou pas. J'aime le Canada. J'aime ça. Québécois de souche. Et j'aime ça. Nous sommes au Canada, moi et mon épouse, et mes trois garçons. On travaille. Le travail est... d'arrache-pied. Le travail, je ne peux pas dire que c'est facile, comme on le dit. Non. Au Québec, vous êtes là, je n'ai rien à vous enseigner, mais le Québec, c'est une autre réalité. Ouais, mais le Seigneur se glorifie.
Amen. Les gens ont souvent comparé le Québec à la France aussi. Le climat spirituel est semblable.
Exact.
Oui, donc certainement, on doit être déterminé quand nous prêchons l'Évangile ici au Québec. Mais gloire à Dieu, Dieu est le même Dieu partout.
Il est là. Hein?
J'ai prêché en Alberta où c'était quand même assez... en tout cas, c'était plus facile. Mais on arrive au Québec, on revient ici et puis finalement, on découvre, bon, OK, il y a certains défis, mais c'est le même Dieu. Et puis le message qu'on prêche en Alberta ou aux États-Unis, bien, c'est le même message qu'on prêche ici au Québec. On voit des résultats. Et là, on dit gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, on veut parler de votre motivation en tant que serviteur de Dieu parce que, comme on a mentionné hier, vous êtes allé au Pakistan récemment. C'est un coin du monde assez dangereux, mais pourtant, peu importe, vous avez compris une chose importante et je veux juste lire un texte à partir de la parole de Dieu dans Romains 12, verset 1. Et après, pourvoir la maison, je pense que ça va vous aider à comprendre comment on peut être motivé vraiment dans l'œuvre de Dieu. Dans Romains chapitre 12 et au verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et pour vous, pasteur Fofi, ce texte-là, En fait, c'est votre réalité. Vous avez offert à Dieu votre corps, littéralement, comme un sacrifice vivant, potentiellement, là. Parce que, habituellement, on va lire ce texte-là, on va dire, oui, on devrait vivre pour le Seigneur une vie sanctifiée, mais vous, c'est pas simplement au niveau de la sanctification.
Ça va
vous êtes
plus,
prêt hein, même à laisser votre vie là-bas, au Pakistan.
C'est des réalités. C'est des réalités. De toute façon, servir le Seigneur, parce qu'il faut toujours être prêt. Mm-hmm. À toutes sortes d'éventualités. Parce que je peux dire que un jour, je prêchais dans un, je crois, c'était aux Antilles. Mmh. J'étais dans une très grande croisade mmh. aux Antilles, en Guadeloupe, où quand j'étais en train de prêcher, et à la fin, c'était à Hall Center. Il y avait une dame qui était ici, c'est la deuxième femme d'un de messieurs, vraiment élevé de leur île. Alors, elle a accepté Jésus, la jeune fille, et en allant l'expliquer à son monsieur qui sort avec lui, qu'elle voulait se séparer d'elle parce que la position dont elle était n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mmh. Le monsieur s'est mis en colère et il est venu. Mmh. Il est venu là où j'étais en train de prêcher. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui était très connu à tel point que même mon équipe de sécurité qui était en arrière ne pouvait pas l'empêcher de venir sur l'estrade.
Wow.
Tout le monde paniquait. Vous voyez, j'étais dans un coin quand même qui est bien sécurisé. Ouais. Mais cela ne m'a pas épargné parce que s'il avait un fusil, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mm-hmm. Est-ce que tu vois ça? Mm-hmm. Alors moi, je crois que notre vraie sécurité, c'est le Seigneur.
Ouais, c'est d'être dans la volonté de Dieu.
C'est d'être dans la volonté de Dieu. Non seulement ça, à maintes reprises, dans plusieurs pays, j'ai été menacé. J'ai été menacé à maintes reprises. Je me souviens à Nicaragua, c'est pareil, à Honduras. Mais tu vois un peu, mais il y avait même dans des frontières où on me menaçait, tout en étant dans des pays qu'on pense qui sont bien, mais tu es menacé pareil. Mmh. Alors moi, les menaces, c'est quelque chose que je suis habitué à être menacé. Et tout ce que je sais, c'est que je sais, quand je sais que j'ai un objectif à atteindre, selon ce que le Seigneur m'a dit, je ne fais même pas cas à toutes ces menaces-là. Mmh. Bon, en tant qu'humain, il y a des moments parfois ça t'embête un peu. Tu as l'envie de vouloir répliquer, mais tu dis tu restes calme et moi je suis venu pour faire ce que Dieu m'a appelé à
c'est
faire.
C'est ça, votre motivation, c'est de répondre à l'appel de Dieu.
À l'appel de Dieu, effectivement.
Et son appel concerne vivre pour lui.
Exact.
Vous vivez pour le Seigneur.
Exact.
Et une fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais t'as pas peur d'aller dans tel pays. Mais en fait, comme j'ai même aussi expliqué à mon épouse, je lui disais, si je dois mourir, admettons, en mission, bien, de toute façon, je vis pour Dieu. Donc, si je refuse d'accomplir sa volonté, je vis pas, là. Pour moi, ma vie, c'est le Seigneur. Donc, je dois obligatoirement répondre à son appel. Il y a un texte en parole dans Colossiens, chapitre 3, au verset 4. Ce texte-là nous dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, Christ, votre vie. Donc, on vit pour le Seigneur, mais moi, je suis très, très loin de vivre comme vous vivez. J'ai la grâce de vivre majoritairement au Canada, mais c'est quand même important de comprendre, je dois vivre pour le Seigneur et répondre à son appel. Donc, votre motivation, premièrement, c'est de répondre et dire oui au Seigneur. Mais une autre motivation aussi, c'est de voir des hommes sauvés. Parlez-moi un petit peu pourquoi vous êtes aussi passionné pour les hommes.
À propos des hommes sauvés, je crois que, premièrement, j'aimerais bien, mon épouse, certainement, qui est en train de nous suivre, elle sait, elle connaît très bien comment les hommes, c'est une des choses pour moi qui compte. Mm-hmm. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne suis pas un prédicateur d'Istrad. Moi, je gagne les âmes dans le riz, n'importe où. Mon épouse peut en témoigner. Un jour, je viendrai avec elle, elle pourra témoigner. Oui. Il y a même beaucoup des hommes de Dieu qui me connaissent, ils savent que le pasteur Fofi, sa passion, c'est les âmes. C'est pourquoi je n'attends pas le dimanche pour aller prêcher. Mmh. Je n'attends pas d'être dans une grande croisade à Cuba ou bien à Panama, devant des milliers de foules. Non, ça, je n'attends pas. Au moins, chaque jour, ce qui se passe dans ma tête, c'est que quand je commence la journée, je dis, Seigneur, combien de personnes est-ce que tu mettras sur mon chemin afin que je leur parle de Jésus? Et c'est ça qui se passe, effectivement. Mmh. Et c'est pourquoi, même dans l'avion, je peux être n'importe où, n'importe quelle situation, je parle de Jésus. Ouais. Et je vois beaucoup de personnes accepter Jésus dans le riz que parfois, là où nous pensons, c'est pourquoi j'encourage toujours les gens, que si vraiment pour ce qui concerne le salut des âmes, eh bien, j'ai des conseils à donner.
C'est vrai. En fait, moi, je pense une des places où j'ai souvent, souvent évangélisé, c'était en avion, justement.
Parce que, c'est que là, où on va personne parler. Ne descendra. Personne ne pourra te guider.
C'est ça. C'est ça. Mais les gens, souvent, sont vraiment intéressés. Puis si on prie, comme vous dites, là, vous priez Dieu orchestre vraiment qu'il y a une personne qui est vraiment un terrain prêt, là, un cœur qui est prêt à recevoir l'Évangile. Donc, Dieu organise les sièges en conséquence.
Moi-même, dans les saunas, si j'ai l'occasion d'aller au sauna, je pars, j'ai amené beaucoup de, je peux dire entre 40 à 60 âmes dans un sauna. Et ils m'ont reconnu, même les chefs du sauna me reconnaissent.
Okay.
Et il sait, il a dit, le pasteur est là. Et les gens acceptent Jésus. C'est là où je vis que, quand l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas honte de l'évangile, pasteur, c'est vrai.
Gloire à Dieu.
Mais ça demande une passion.
C'est ça, vous êtes passionné pour les âmes.
Ouais.
Et des fois, on pense à ça, il y a des gens qui ont du mal même à se déplacer le dimanche matin pour aller à l'église. Et vous, vous êtes tellement motivé, vous êtes prêt à aller aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile là où il y a un danger véritable. Vous êtes motivé et peut-être aujourd'hui, si vous dites, ben moi j'ai du mal à me lever le dimanche matin, bien, vous pouvez vous inspirer de la vie de pasteur Fofi.
Je vais vous dire quelque chose. Là, j'aurai une réunion à Téhéran. J'aurai une réunion avec une communauté, mais en Iran, à Téhéran. Vous voyez un peu? Mais quand ils m'ont sollicité, j'ai dit, écoutez, laisse-moi voir, je parlerai avec mon épouse. Parce que du côté du Seigneur, je sais que c'est déjà un d'accord. Je sais, je prie, mais je sais que le Seigneur le veut, j'irai. J'aimerais bien parler aussi à mon épouse, parce qu'il y a la famille qui est là.
Elle entend la voix de Saint-Esprit.
Certainement. Ouais. Elle est en train de me suivre. Pasteur, c'est quelque chose qui est en moi. Je ne peux pas. Non et non et non. Je ne peux pas refuser l'opportunité que le Seigneur me donne d'aller parler de Jésus à deux ou trois personnes, que ce soit 1000 personnes. Moi, ce n'est pas la foule qui me motive, pasteur. C'est que je peux faire des kilomètres et des kilomètres pour une âme, pour deux âmes. Regarde, un jour, j'ai eu une grande croisade à Laval.
Ici, au Québec.
Au Québec. J'ai loué une grande salle de 500, avant d'autres croisades, une grande salle qui pouvait prendre 500 personnes. Pasteur Joël, écoute, j'arrive, on a fait toute la publicité. J'arrive avec mon équipe de louanges qui devrait chanter.
Oui.
Vous savez combien de personnes qui se retrouvent dans la salle? Une dame.
Une dame.
Une dame assise presque au troisième rangée dans une salle de 500 personnes. Une seule dame, du début jusqu'à la fin de mon message. Je lance l'appel. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus dans la salle? C'est cette dame-là qui se lève, qui accepte Jésus.
Vous avez eu 100% de réussite.
Écoute, pasteur, le dimanche, cette dame vient à l'église. Elle a amené 5 autres personnes. Le dimanche suivant, elle a amené 15. Et cette dame-là, chaque dimanche, elle a amené des âmes. Pasteur, tu te rends compte? Si je m'étais découragé en disant une salle de 500 personnes, j'ai qu'une seule dame. Effectivement, la croisade a été faite exactement pour elle, parce qu'elle était l'unique.
Ben, gloire à Dieu. On va regarder des photos de votre dernière croisade que vous avez eue en Arménie. On va regarder quelques photos maintenant, parce que vous avez heureusement des fois plus qu'une seule personne, n'est-ce pas?
Ça, c'est au Pakistan.
OK. Donc, ça, c'est au Pakistan.
Au Pakistan, oui.
Oui, et je pense qu'on va voir aussi dans d'autres émissions, d'autres photos.
À Punjab.
Donc, ici, vous étiez en train de prêcher l'Évangile. Dans quelle ville?
Oui, à Punjab. Okay. Je crois qu'à Punjab. Et c'était puissant parce que la foule était là, dans tous les sens. Il y avait des militaires partout, des policiers, ainsi de suite.
Okay.
Mais vous voyez un peu là, comment les gens sont réceptif. Regardez un peu les dames, parce que les femmes sont de l'autre côté, si vous regardez bien, les hommes de l'autre côté.
On peut aller à la prochaine? Oui, donc, OK. Oui.
Ah, vous voyez, ici, on montre des femmes, et de l'autre côté, des hommes, mais à perte de vue, plein. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'ils étaient là, elles buvaient la parole. Elles suivaient les détails. Pasteur, ça m'a motivé.
Oui.
Il y a des places, quand je commençais à prier, on me donnait des bébés. Là, on voit un monsieur avec sa chaise roulante. Mm-hmm. Vous voyez ce qu'il soulève là? C'est la chaise roulante. Guéri.
Gloire à Dieu.
La puissance de Dieu était présente. Mm-hmm. Dieu était en train d'opérer, mais des choses incroyables.
Ouais. Vous
voyez, avec tout ça, on n'a pas l'envie, on ne craint pas des balles. On ne craint pas. À un certain moment, on oublie qu'on peut tomber d'une minute à une autre à une balle. Mais on dit, on continue.
Je pense qu'il reste une dernière photo. Donc ici, vous étiez en train de prêcher encore une fois.
Oui,
et vous étiez en train de me dire juste avant l'émission que pendant que vous étiez en train de prêcher, vous avez ressenti dans l'esprit qu'il y avait un certain danger et vous vouliez dire à votre garde du corps de prier.
Ça, c'était en Arménie.
OK.
Ça, c'était en Arménie.
OK. Allez-y, mais racontez quand même.
J'étais dans un endroit, il y avait beaucoup de monde. J'étais en train de prêcher. Et finalement, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Mm-hmm. Dans la foule, là, en Arménie. Alors, je pensais dans mon cœur, je dis, non, il faut que les frères chrétiens commencent à prier. Mm-hmm. Alors, je voulais le regarder. Mais justement, au moment où j'étais en train de dire, il fallait quand même que les frères commencent à prier. Directement, il a commencé à prier. Mm-hmm. Et il était à côté du pasteur qui nous a accueillis dans la foule. Il commence à prier, mais à sa grande surprise, le pasteur lui dit, monsieur, tu as étudié l'Arménie où?
Wow.
Il parlait
arménien.
En arménien. Mm-hmm. Le pasteur lui dit, monsieur, tu parles arménien? Elle dit, mais non, je n'ai jamais appris, je ne connais pas l'Arménie. Elle dit, monsieur, vous êtes en train de parler en et qu'est-ce que ce soit? Wow. Vous êtes en train de louer Dieu, mais en Arménie. Mm. Oh, pasteur. Et il fallait voir l'onction qu'il y avait, les miracles qui a eu lieu ce soir-là. Mm-hmm. Mais c'était des miracles incroyables. Wow. Dieu s'est manifesté. C'est la première fois vraiment qu'on faisait cette expérience-là.
Ouais.
Moi, je suis en train de penser, lui directement démarre l'intercession et il commence à louer le Seigneur en Arménie.
Ouais. Ah, wow. Wow, c'est vraiment merveilleux. Vous étiez connecté dans l'esprit. Donc, choses aussi, vous avez cette motivation non seulement de répondre à l'appel de Dieu, de voir des âmes sauvées, mais aussi de voir des signes, des prodiges et des miracles. Et certainement, ça, ici, ce que vous venez de nous témoigner, vous venez de révéler que oui, les dons du Saint-Esprit sont certainement encore pour nous aujourd'hui. Le don des langues existe encore, certainement.
Pasteur, dans des lieux comme le Pakistan, si vous voulez seulement expliquer la parole, sans la confirmation que réellement Jésus-Christ est vivant, alors vous faites fausse route. Mm. Vous savez qu'il y a des moments, je voulais commencer à prêcher, mais je demandais dans la foule. Je disais, apportez-moi les sourds muets. Mm-hmm. Les sourds muets. Et la foule montait avant de commencer à prêcher. Mm-hmm. Il montait la foule. Quand je dis la foule montait des sourds muets. Il y a beaucoup de sourds muets là-bas. Mmh. Beaucoup. Alors, je disais, je vais prier pour eux. Si vous voyez la guérison, vous devez savoir que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et vous comprendrez que c'est Jésus que j'ai dit, que j'explique ici, est réellement ici. Pasteur, on n'avait même pas le temps de... On disait, au nom de Jésus, tout le monde, tous, en un clin d'œil, pan, guéri, la langue se débloquait, commençait à parler, les oreilles s'ouvraient, commençaient, j'entendais seulement la foule pousser des cris, Mais tu vois, le chemin était déjà préparé. Wow. Les gens étaient prêts maintenant d'entendre l'évangile. C'est une autre façon de faire les choses que j'ai compris. Ouais. Parce qu'il y a des moments, parfois, nous voulons d'abord donner les messages pour que les gens aient la foi. Mais là, c'était l'inverse. Je commençais par prier pour les malades. Les malades étaient guéris d'une manière instantanée. Mm-hmm. Et tout le monde voyait. Et tout le monde vérifiait. Wow. Vous avez vu exemple d'autres pieds qui se sont allongés.
Oui.
C'était devant les caméras. Mm-hmm. Vous voyez l'écart des deux pieds. Et quand tout le monde devant les écrans voyait le pied s'allonger, les gens répondaient par des cris. Mm-hmm. Et beaucoup de musulmans, la plupart c'est des musulmans.
Ouais.
Pasteur, maintenant quand je parlais, je pouvais parler 15 minutes seulement de messages et je demandais qui voulait accepter le Seigneur. C'est la foule qui acceptait Jésus.
Wow.
La foule, presque les trois quarts de la foule donnaient leur vie à Jésus.
Wow. Donc, c'est vraiment pas une présentation intellectuelle.
Non.
Parce que, comme vous dites, si on arrive avec un beau discours, les gens peuvent juste penser, bon, c'est juste une autre religion.
Exactement.
Et vous arrivez avec la présentation d'une personne.
D'une personne.
Une personne vivante, Jésus qui guérit encore
effectivement,
aujourd'hui.
C'est ça l'évangile, pasteur. Mm-hmm. C'est ça l'évangile. Je crois que même ceux qui nous suivent doivent comprendre que l'évangile ne doit pas être compliqué. Mm-hmm. L'évangile ne doit pas rester tout simplement sur l'herméneutique ou bien quoi que ce soit. L'évangile, je crois qu'elle demande la démonstration.
Ouais.
Et je bénis le Seigneur parce que je vis cela au Cuba lors de mes croisades au Cuba. Je vis cela en République de Panama. Je vis cela en Nicaragua, mm-hmm. en Honduras, à El Salvador, dans plusieurs pays du monde. Je vis mm-hmm. ça. Je vis ça.
Et ça, c'est une grande motivation aussi de voir le Seigneur se glorifier dans
oui,
vos réunions.
Oui, il s'est glorifié.
Dites-moi, pasteur Fofi, bon, vous avez été motivé en servant le Seigneur depuis des années, mais avant de voir ces miracles-là, est-ce que vous aviez des inspirations, des personnes qui vous motivaient à l'œuvre de Dieu? Je sais que vos fils ont des noms assez particuliers.
Quelqu'un, les hommes de Dieu que je n'oublierai jamais, mm-hmm. qui ont marqué ma vie personnellement.
Oui.
Un jour, j'étais avec Tel Osborne, avec sa femme Daisy, oui. à Panassac, en France, dans le sud de la France.
Oui.
Et vous savez, je n'oublierai jamais des paroles que Tel Osborne et Daisy Osborne m'ont dit.
Oui.
Et elles ont prié pour moi. Une autre fois, c'était avec le docteur Lester Samral.
Mm-hmm.
Et en dépit de cela, c'était, s'il y a quelqu'un vraiment, mon premier fils s'appelle Kenneth.
Mm-hmm.
C'est le docteur Kenneth Hagin.
Mm-hmm.
Oh, il m'a beaucoup inspiré.
Ouais.
J'ai tellement lu de ses livres,
ouais.
et je l'ai suivi tellement. Il y a beaucoup, mais surtout eux qui m'ont marqué.
Ouais.
Le docteur Lester Samral, le docteur Hagin, Tel Osborne, ils m'ont beaucoup aidé. Et beaucoup d'autres ministres de Dieu qui ont été une bénédiction pour moi. Ça veut dire, mes antécédents, c'est que j'ai suivi des personnes
mm-hmm.
réellement qui avaient quelque chose.
C'est ça, mais vous avez été inspiré, et l'apôtre Paul a dit aussi, suivez mon exemple.
Hein.
Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là à la maison, vous dites, ah, j'aimerais ça vivre le miraculeux, j'aimerais mm-hmm. ça prier et voir des miracles comme pasteur Fofi. Donc, aujourd'hui, vous pouvez être inspiré par le pasteur Fofi et faire la même chose. Mais je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui disent, pasteur Fofi, c'est très bien. Bon, vous allez en mission, vous priez pour les malades, les gens sont guéris. Moi, je prie pour mon ami, la personne reste malade, mais qu'est-ce qui se passe?
Pasteur,
dis-moi, pasteur Fofi, c'est quoi le secret?
Pasteur, une des choses que je peux dire ici, c'est que même les gens qui me connaissent le diront. Pasteur, vous savez, dans le ministère, surtout dans le ministère des miracles, des guérisons, ça demande, non seulement tu dois avoir la foi,
mm-hmm.
parce que moi, dans ma nature, je n'aime pas les appels. À peu près, je n'aime pas.
Mm-hmm.
Je crois que même le Seigneur sait que moi, tout ce qui est à peu près, je n'aime pas.
Mm-hmm.
Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça.
Mm-hmm.
Deuxièmement, ça demande non seulement la foi, mais ça demande le courage.
Mm-hmm.
Vous savez, pasteur, nous vivons une époque où les gens ne veulent pas risquer.
Mm-hmm.
Et se disent, et si j'essaye et que rien ne se passe. J'ai toujours dit, je ne suis pas l'auteur de la Bible.
Mm-hmm.
Je l'explique même dans des foules. Je leur dis, écoutez, je n'ai pas froid aux yeux. Je n'ai aucune crainte de prier pour vous, parce que je ne suis pas l'auteur de la Bible, mais je connais l'auteur de la Bible.
Mm-hmm.
J'ai une relation avec lui.
Mm-hmm.
Et il faut avoir l'audace.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle qui se manifeste dans la réunion de beaucoup des hommes de Dieu, tout simplement parce qu'il leur manque le courage et l'audace
mm-hmm.
de oser. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Si, ils ont la foi. Ils ont la foi. Mais il leur manque le courage et l'audace.
Mmh.
Bon, autre chose aussi, moi je crois que j'aime être sincère. Je dis aux gens, je sais qu'il y a beaucoup d'habits, surtout dans le domaine des miracles. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait croire aux gens qu'ils étaient guéris, ainsi de suite. Là. C'est ça. Ça, je n'aime pas ça.
Mmh.
Et j'aime voir vraiment d'une manière palpable, authentique, que la personne a été guérie. Et c'est ça, c'est pourquoi je crois que Dieu connaît mon cœur. Presque dans tout endroit que nous allions, Dieu se glorifie.
Mm-hmm.
Je sais.
Est-ce que vous croyez que ce que vous avez vécu, que c'est vraiment disponible pour les personnes à la maison?
Effectivement. Même de là où ils sont,
mm-hmm.
même de là où tu es, je ne sais pas tu es dans quel pays, mais le Seigneur est capable de te guérir de là où vous êtes. Premièrement, il y a la grande guérison que tu as besoin, premièrement, tu as besoin de la guérison de ton âme. Tu as besoin de recevoir la vie de Dieu.
Mm-hmm.
Zoé, la vie de Dieu. Et quand tu reçois la vie de Dieu, la Bible dit, cherchez d'abord mon royaume et toutes choses vous seront données en dépit. Ça veut dire la guérison, tout miracle fait partie de toutes choses. Commence d'abord de dire à Jésus, viens dans ma vie. Et lui, quand il vient, il est le grand médecin qui guérit. J'en ai vu guérir en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, partout dans le monde. Ça veut dire que tu ne seras pas la première personne à être guérie. Même là, tout de suite là, on peut prier avec toi.
Pasteur Fofi, j'aimerais ça. Oui, vous pouvez prier pour les gens qui sont malades en ce moment. Je suis certain, si vous êtes malade, vous voulez recevoir votre guérison au nom de Jésus. Mais aussi, après, j'aimerais ça vous inviter à prier pour les chrétiens qui sont là, qui disent, je veux œuvrer dans le surnaturel comme Pasteur Fofi. Je veux voir des miracles. Donc, pouvez-vous prier pour les deux catégories de gens?
Il n'y a pas de problème.
OK. Ah, mais on va s'accorder dans la foi.
Amen.
Donc, Pasteur Fofi, allez-y. Amen. Vous êtes relâché au nom de Jésus. Amen.
La première chose que j'aimerais dire à tout chrétien qui aimerait bien voir le surnaturel se manifester dans sa vie, retournons dans les Écritures. La Bible dit dans Marc 16, Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu fais partie de tous ceux qui auront cru.
Amen.
Ça veut dire que les dons, le miracle doit t'accompagner. Il n'y a rien de compliqué. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie, mais tu peux tout simplement croire simplement cette parole. Et vas-y par la foi. Amen. J'ai vu cela à Shawinigan. J'étais en train de prêcher dans une grande église avec le pasteur Félix. Les gens ont accepté le Seigneur et au moment où je voulais prier pour le malade, le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui prie pour le malade. J'ai pris deux filles, l'autre qui est en train de jouer au tam-tam, et ainsi de suite. Je les ai pris. J'ai dit, c'est vous qui allez prier pour le malade. Vous savez, quand elles ont commencé à prier pour le malade, c'était du jamais vu. Les gens étaient guéris.
Amen.
Alors, j'aimerais bien prier pour vous. Tu peux seulement lever les mains en l'air en disant, Seigneur, je me mets à ta disposition.
Je me mets à ta disposition.
Sers-toi de moi. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus.
Si tu le crois sincèrement dans ton cœur, vas-y. Ose. Vas-y. On n'essaye pas avec la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Vas-y.
Amen.
Maintenant, j'aimerais bien prier pour ceux qui sont malades à la maison. Tu peux seulement poser ta main là où tu es. Parce que Christ, en mourant à la croix, il y a de cela 2000 ans, il est mort. Il a porté et les péchés et nos maladies. C'est ça. Si vous lisez Ésaïe 53, vous le verrez. Il est mort, il a porté ta maladie et tes péchés. Père, au nom de Jésus, maintenant, étant ta main, je menace chaque maladie dans le corps de chaque personne qui me suit. Dans le nom puissant de Jésus, lâche prise, reçois la guérison au nom de Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. Et puis, on veut vous remercier aussi d'avoir été là. D'ici à la prochaine émission, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseignemoi.com et soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.